le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous. Un troisième jour de perturbation dans les gares aujourd'hui en France. 9 TGV sur 10 en circulation sur les axes Atlantique et Sud-Est. 2/3 des TGV Ouigo bloqués à quai. Et pour ceux qui doivent prendre le RER, les lignes B et D en région parisienne, il est conseillé de reporter votre voyage. Le gouvernement, lui, est entré dans le bras de fer hier. Il dénonce une grève sauvage. Les syndicats de la SNCF parlent de droits de retrait, et ce après un accident qui a fait une dizaine de blessés mercredi. Boris Johnson contraint hier soir de demander un nouveau délai pour le Brexit. C'est ce qu'il voulait éviter après avoir négocié un accord de sortie dans la semaine avec Bruxelles. Les députés devaient le valider hier, mais ils ont décidé plutôt d'adopter un amendement qui oblige le Premier ministre à réclamer ce délai. L'Élysée fait savoir de son côté qu'un délai supplémentaire n'est dans l'intérêt de personne. C'est un adversaire redoutable, dixit l'entraîneur des Bleus, Jacques Brunel. France, Pays de Galles, c'est l'affiche du quart de finale de la Coupe du Monde de rugby ce matin. En Ligue 1 de football, le nouvel entraîneur de Lyon, Rudy Garcia, n'a pas fait de miracle. Match nul face à Dijon, match nul également pour Nantes face à Metz. Reims grimpe à la troisième place du classement en battant Montpellier. Trois matchs à suivre aujourd'hui, Bordeaux-Saint-Etienne, Monaco-Rennes et Marseille face à Strasbourg. Une découverte sublime en Égypte, près de Louxor. 30 sarcophages en bois peint viennent d'être exhumés. Ils étaient enfouis depuis 3000 ans à 1 mètre de profondeur. Sur un fond jaune, on distingue des hiéroglyphes et des peintures de divinités égyptiennes. Ces sarcophages appartiendraient à une importante famille de prêtres. Bonne journée.
RVE. Philippe et son équipe vous attendent, mais avant ça, eh bien, je vous propose un point météo pour la journée. Et ce sera très pluvieux côté ciel, avec évidemment des nuages et des maximales qui monteront jusqu'à 12 degrés. À présent, eh bien, c'est Tribune Sport présenté par Philippe jusqu'à 11h. Très bonne écoute et très belle journée à tous sur RVE.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce dimanche 20 octobre. Alors, c'est une émission un peu particulière ce matin, hein, puisque nous sommes à la mi-temps du quart de finale de Coupe du Monde entre l'équipe de France et le Pays de Galles. Alors, rassurez-vous, hein, bah, vous faites comme nous, vous allez nous écouter, enregistrer la deuxième mi-temps et puis pouvoir le suivre dans les conditions du direct une fois notre émission terminée. On va ce matin parler vélo, c'est normal, on a profité du fait que ce soit la dernière course de la saison avec le chrono des Herbiers pour recevoir, eh bien, Claude Maignan, président de l'association des forçats de la route. Claude, bonjour, des géants du Tour, c'est ça?
C'est ça, les géants du Tour.
Ouais, qui sont aussi des forçats, on peut le dire, Claude.
Ouais, non, ouais, mais le mot géant, j'aime bien.
Voilà, très bien. Alors, d'abord, le vélo, ça entre comment dans votre vie?
Je n'ai pas fait de vélo, moi je suis plutôt sport olympique, je suis ancien handballeur, ancien arbitre, donc ça me place. Le vélo, dont j'ai toujours aimé, par mon oncle, mon grand-père, etc. Mais c'est surtout, je dirais, le bonheur que je trouve toujours au Tour de France. J'ai vu beaucoup de passages du Tour de France.
On a tous des images de Tour de France dans notre vie, dans notre enfance, tous.
Oui, mais c'est tout, surtout, moi je suis membre du Fair Play au niveau national, il y a vraiment, je dirais, il n'y a pas de violence. Il y a vraiment une amitié entre tous les pays, et ça c'est sympa.
Alors, vous avez monté, suite donc à cet amour du Tour de France, une association pour montrer que finalement, le vélo et le Tour de France, c'est notre patrimoine. Et qui dit patrimoine dit facilement lié à l'histoire.
Oui, donc j'ai monté l'expo, mais l'expo elle est récente. Je vais remonter plus loin, donc c'est par rapport à l'idée d'il y a 20 ans, suite à la Coupe du Monde de football, à faire un livre effectivement pour tous les passionnés qui se trouvent sur le bord de la route. Parce que quand on se trouve sur le bord de la route, on refait l'histoire et on s'aperçoit qu'on s'est trompé d'un an ou deux ans, ou qu'on ne savait pas. Donc je me suis dit, il faut faire un livre. Et donc j'ai pensé pendant 10 ans à faire un livre. Ensuite, j'ai eu un ami, Serge Lager, qui est grand journaliste.
Plus bien connu
à l'équipe, entre autres, etc. J'ai dit, Serge, écoute, on va faire ça à quatre mains. Et à quatre mains, on a fait un livre qui s'appelle Le Compte Tour, compte et raconte tous les Tours de France. Et de ce livre qu'on a lancé en 2011, aujourd'hui en 2019, on a refait une histoire. De cette histoire, on a fait une expo, parce que c'est vraiment de l'amitié avant tout que l'on a.
Oui, vous avez beaucoup d'admiration pour les champions cyclistes. Ce sont des hommes autrement, ce sont des hommes à part entière, complètement différents des autres.
Je pense qu'ayant fait du sport quand même à haut niveau, tous les sports sont très difficiles. Je place deux sports au-dessus. dans la dureté et même au niveau de la dangerosité, c'est la boxe. Et puis le vélo, la boxe, vous êtes compté 8, qu'est-ce que vous faites? Vous restez au tapis ou vous vous relevez en pensant à mettre le KO? Et ce qui me surprend toujours, c'est le coureur cycliste qui tombe, le premier réflexe, c'est qu'il remonte. Oh. Alors quand on voit d'autres sports, c'est pas le cas. Voilà.
Très bien. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais simplement d'abord apporter un petit rectificatif à l'émission de la semaine dernière, hein, les trophées Herve Tennis. Eh bien, c'est naturellement Fargis qui a été donc l'équipe qui a réuni le plus grand nombre de participants et participantes devant le Perret en Yvelines. On avait pu donc l'entendre dans l'interview, donc on va leur rendre, eh bien, naturellement leur place et toutes nos excuses pour cette section tennis. Et puis, les 22, 23 et 24 octobre, il y aura Sport en Filles, organisé par eh bien, le CROSIF, le comité régional olympique et sportif d'Île-de-France, présidé par Evelyne Sirieghi. Alors, il y aura naturellement, durant ces trois journées, des opérations qui permettront de promouvoir le sport féminin, corriger les inégalités de la pratique sportive pour toutes, développer la vie associative et les structures d'accueil du sport fédéral, favoriser par la pratique sportive les rencontres et les échanges et les liens sociaux, donc cette pratique du sport féminin. 300 adolescents de 11 à 17 ans, issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville, seront encadrés par des professionnels du sport fédéral pour découvrir différentes activités sportives. Et puis, il faut quand même rappeler qu'il y aura des ambassadeurs du sport de la région Île-de-France, sportifs de haut niveau, ayant notamment participé aux Jeux Olympiques de Rio, qui seront présents pour échanger avec les adolescents sur leur parcours sportif et proposer des démonstrations de leur sport. Alors, Claude, il y a cette passion pour le Tour de France. Vous avez eu des coureurs qui vous ont fait plus rêver que d'autres?
Evelyne, je la connais. Donc
oui, elle est c'est une habituée, Evelyne.
Elle est membre du Fair Play.
Oui. On y va tous les ans. Tiens, on s'y retrouvera à fin novembre, le 28.
28, tout à fait.
Voilà. Très bien. Donc, il y a un coureur qui vous a fait rêver plus qu'un autre au départ?
Beaucoup de coureurs de l'histoire. Bobet. Bernard Hinault. Et là, ce qui est drôle, c'est à mon niveau, c'est que je me suis vraiment planché dans vraiment l'histoire. Donc effectivement, c'est Faber, c'est Petit Breton, c'est Lapize, tous ces coureurs que je mets en témoignage dans l'expo. Je connais leur histoire et je connais maintenant les petits enfants. Oui.
Alors c'est un travail immense parce que comment on arrive à retrouver leur histoire. Il faut retrouver leur parenté, leur descendants. Donc il y a un gros travail de recherche.
Pas du tout. C'est pas de recherche. Soit vous restez chez vous ou soit vous déplacez. Oui. Donc nous on vous déplace. J'ai fait quand même 6 fois le Tour de France en tant que je dirais passionné, voilà, etc. Donc on fait des rencontres, etc. Puis après la chance, je crois qu'on a tous la chance, et moi j'ai la chance, et la première chose qui s'est passée au-delà de Gilles Lefebvre, qui a été plus simple parce que c'est Jacques Marchand qui m'a mis la main à rencontrer le petit-fils de Gio, donc tout ça. Mais par rapport déterminant, c'est Faber qui a été déterminant, parce que là on s'est aperçu, on voulait fêter les 100 ans de sa mort, que sur le monument aux morts il n'y avait pas son nom de marqué.
Oh, c'est incroyable.
Et là c'est là que depuis ce jour-là la magie existe. La mairesse ne bouge pas, le premier adjoint bouge, et j'ai un appel donc de l'ambassadeur qui me dit je viendrai à l'immigration pour le monument aux morts. Voilà, donc ça c'est. Et après Petit Breton, c'était simple. Serge, je connaissais bien Yvonne Lagarde, donc là aussi c'était devenu des amis. Et le plus surprenant, c'est ça s'est passé là au mois de juillet à Grenoble. C'était à Grenoble qu'il fallait être pour les 100 ans du maillot jaune à travers Jeanne Christophe. Je suis à Grenoble, l'expo est là, on est à 1h, 1/4 environ de la plaque qu'on allait poser au café de l'ascenseur. Sur mes panneaux, j'ai des panneaux spécifiquement au maillot jaune, et entre Bruxelles et Grenoble, je change mes panneaux, je parlais de trois personnes, je parlais d'un repélissier, je parlais d'Alphonse Bauger et de Philippe Tiss. Donc je décide de les mettre en photo. Et il était donc midi moins le quart, et là on m'appelle, Claude, il y a un monsieur qui est là, un jeune qui est là, qui me donne sa carte. Il s'appelle Émeric Pellissier. Il me dit c'est mon arrière-grand-père. Alors je lui dis c'est bien. Je dis qu'est-ce que tu fais là? Il me dit je me tutoie. Il me dit j'ai un rendez-vous à 14h. Je dis non, tu n'auras pas rendez-vous à 14h. À 14h tu seras avec moi, monsieur le maire. Monsieur le maire, comme moi, notre nom n'est pas associé au Tour de France, ton nom. Effectivement, Pellissier, c'est un nom important. Il faut que tu sois avec nous. Tu t'appelles ton client, etc. Donc, il appelle son client, etc. Effectivement, il est avec nous. Mais donc, juste après, la deuxième question que je lui pose, on est à Grenoble, t'habites où? Et là, il me dit, bah, j'habite Paris. Avant, t'habites où? À Paris, au terme. Et là, je m'aperçois qu'il habite à 500 mètres de Faber, de Petit Breton et de Jette Christophe.
Il le savait?
Non, pas du tout.
Ah ouais?
Pas du tout.
C'est
donc,
fabuleux,
ce qui était, donc, c'est là le hasard. Parce que si je laisse le premier panneau, il y a marqué Henri Pélissier. C'est le fait que je fasse mis Henri Pélissier en photo, en gros, pour tout vous dire, en gros, c'est un format A3. Donc, il a reconnu son grand-père, il s'est arrêté. Le nom, il serait pas arrêté. Donc, c'est ça le hasard. Après, vous construisez ça.
Ouais.
Donc, ma vie est faite de cela.
D'accord.
On est allé à Bruxelles à l'expo. J'ai retrouvé là, en train de retrouver les enfants de Tis, de Defray. Voilà. Tout ça, c'est la
vie. Sans la moindre difficulté.
Non. C'est vous lancez. Ouais, j'ai été heureux. C'est pareil. Je suis passé à la radio en Belgique.
Oui.
Et j'ai passé un message. Donc, les gens répondent. C'est tout simplement. Il faut être patient. À passionner les patients.
Oui, bien sûr. Donc, vous y consacrez l'essentiel de votre temps.
Une grande partie, mais ça me dérange pas, c'est mon truc. Maintenant que j'ai 65 ans, je travaille encore un peu, mais beaucoup moins, donc c'est vrai que cette passion-là, et je crois au destin, donc je sais que je continuerai à rencontrer des gens et de l'amitié, quoi.
Il y a certains grands champions que on n'a pas pu identifier à travers leur famille. Il y en a encore où on cherche des descendants.
Ce qui est important, c'est quand je parle de nous, les géants du Tour, un géant, il faut expliquer aux gens ce qu'est un géant. Un géant, c'est le coureur qui prend le départ et qui termine.
Voilà. C'est ce qu'on
a dit. C'est ça. Prend le départ et termine. Ça, c'est un géant. Alors qu'on l'ait fait une fois ou 16 fois comme
peu d'autres mecs. On est un géant.
On est un géant. Parce qu'on est un géant, parce que dans sa région, dans son département, dans sa ville, on est honoré. Donc moi, je ne mets pas de degré. Du champion. Le fait, alors, Tour de France, alors là aussi, on peut le dire grâce au livre qu'on a écrit avec Serge. Donc on est en 2009, il me parle de géants, il m'explique qui c'est, puis je lui dis, Serge, il y a combien de géants du Tour? Il me dit, il y a environ 5000. Comme ça.
Ouais.
Moi, j'avais travaillé en amont, j'avais 18 millions en données, et j'ai un ami qui est informaticien, je dis, Carlos, écoute, j'ai 18 000 noms, mais il me le faut le nom une fois. Et là, on arrive, dans un premier temps, à 3060, et on est arrivé à 3026. Et c'est là qu'il est terminé, 3026 coureurs sur un peu plus de 100 ans, ça ne fait pas beaucoup par an.
Oui,
donc, être géant du Tour, c'est quand même important. Je sais qu'on est là, on est de côté de Rambouillet, donc vous avez connu la Coupe du Monde de football avec Philippe Tournon, qui est un ami.
Philippe Tournon,
Et Philippe me dit, donc un géant du Tour, c'est la même chose qu'un joueur qui a une sélection de l'équipe de France. Je dis, attends Philippe, tu rigoles. Un joueur a une sélection, il rentre 10 secondes, il a une sélection. Le géant du Tour, il a 3 semaines.
Il termine le Tour de France.
3 semaines. Ouais. Il pleut, il rentre, il peut dire 3 semaines. Ah oui, d'accord, c'est pas la même chose. Donc c'est pour bien mettre le niveau qu'un géant respect.
D'ailleurs, vous parliez du Mondial 98. Bon, ce sont des gens qu'on a très bien connus. Aimé Jacquet,
Philippe Tournon.
Aimé Jacquet, passionné de vélo, qui vous a d'ailleurs sorti une anecdote assez remarquable.
Dans le livre, on fait témoigner Daniel Morangiazera. J'ai voulu faire témoigner Aimé Jacquet parce que c'est de là qu'est venue mon idée. Ouais. Et je lui ai dit, Aimé, t'as apporté beaucoup de bonheur, moi, aux gens en 98. Il me dit, non, Claude. Moi, je l'ai fait qu'une fois, le Tour de France. Le fait depuis 100 ans.
Voilà.
C'est un grand monsieur.
Oui, c'est ça. J'ai résumé l'homme.
Et moi, c'est tout à fait ma philosophie. Et on parlait du fair play. Effectivement, il y a le prix Aimé Jacquet qui existe. Mmh.
Alors, on va revenir donc sur la création du Tour. Contrairement à ce qu'on croit, c'est...
Le Tour, effectivement, sur des granges. Mais c'est une idée.
Voilà.
Une idée de Gilles Lefebvre. Et ça aussi, c'est quelque chose qui m'a marqué.
Journaliste quand même.
Journaliste, enfin. Mais c'est plus que ça, parce qu'il a vécu et fait ses études au lycée Marceau à Chartres. Moi, je suis Droué, dans le lycée Maurel-Loire, donc il y a quelque chose qui fait.
Vous êtes ton voisin.
Là, je suis ton voisin. Jacques Marchand m'avait tellement parlé de Géo.
Ouais.
Donc, j'ai repris vraiment ça avec passion. C'est pour ça que j'ai vu son petit-fils, qui m'a donné une figurine que j'ai apportée pour qu'on comprenne un peu. Mais l'histoire de Géo est marrante du Tour de France. C'est complètement le hasard, et c'est par rapport à l'histoire de France. Et quand je fais l'expo, je parle de l'affaire Dreyfus, tout le monde connaît Dreyfus.
Oui, parce que tout part de l'affaire Dreyfus, ça paraît incroyable quand même.
Oui, mais tout simplement, là aussi, c'est un peu tout à l'heure, on parlera du maillot jaune. Tout simplement, on est en 1900, donc tout va bien. Pierre Giffard, patron de vélo, Desgranges, patron d'auto-vélo, deux combats de chefs d'entreprise. L'affaire Dreyfus arrive, qui a vraiment divisé
la France
en deux, etc.
Ouais.
Et Pierre Giffard prend fait des causes pour Dreyfus, et même il écrit dans son journal. Et ça déplaît aux actionnaires, le compte de Dion, les pompes Clément. Donc ils enlèvent l'argent, ils donnent l'argent à Desgranges. Desgranges a l'argent, mais son journal ne décolle pas. Et on est le 20 novembre 1902, Géo est en réunion, comme on peut l'être là aujourd'hui. Là. Réunion, Desgranges arrive dans la pièce, il dit à Géo, il faut qu'on trouve une idée, sinon on va mourir. Et Géo répond, patron, on n'a qu'à faire le Tour de France cycliste. Géo, je t'invite à manger. Voilà, ça se passe comme ça. Giolo raconte ça dans un petit livre que son petit-fils m'a fait voir, et c'est vraiment impressionnant de voir que pour Giolo Lefebvre, le Tour de France, c'est 6 fois, il dit, mon patron m'a invité à manger. Pour lui, c'est ça le Tour de France. Imaginez, plus de 100 ans après, ce que c'est. Uh-huh. Et en plus, je vous dis quand même que Giolo Lefebvre aussi a aussi été partie prenante dans les 24 heures du Mont Auto.
Oui, oui. Voilà. Bon, et il a passé toutes les époques. Le Tour, il est plus que jamais populaire.
Je reviens pour l'histoire de là. Donc, comment ça se passe? Donc, Géo, il se dit, mon patron m'a invité à manger. Donc, entre le journal et le retour de Madrid à Paris, il y a 800 mètres. Et là, tout de suite, il a trouvé l'idée. Il y a Paris-Brest-Paris qui existe. Il y a Paris-Roubaix. Et il y a Paris-Bordeaux, Bordeaux-Paris. Uh-huh. Il se dit, si je mets des classiques les unes derrière les autres avec un jour de repos, c'est bon, je fais le Tour de France. Uh-huh. Il est content. Voilà. À table, il dit ça à Desgranges. Desgranges refuse. Souvent Desgranges, vous verrez.
Desgranges refuse.
Ah bon? Oui, souvent. Souvent, il a refusé, mais il est intelligent. Il sait que. Mais, principe. Mais à table, ils ne sont pas deux, ils sont trois. Et c'est donc Victor Godet, le père de Jacques Godet,
qui fait penser à la balance.
Qui fait penser à la balance. Et c'est comme ça qu'est né le Tour de France. On pense que le Tour de France serait né, sauf que c'est un accélérateur.
Uh-huh. Voilà. Et aujourd'hui, le Tour, est-ce qu'il est 3e manifestation sportive mondiale, la première quand il n'y a pas de Jeux Olympiques ou de Coupe du Monde. Il a passé toutes les époques, même si ça a été compliqué dans les années 98, hein, avec le dopage.
On est bien d'accord, mais ça, je veux revenir. Non, c'est plus que ça, c'est que le Tour de France, je le passe au-dessus, parce que c'est quand même, je dirais, gratuit.
Oui, oui.
C'est
bien sec, sûr,
c'est quand même assez important, et le Tour de France peut passer aussi un jour devant chez vous.
Oui, oui.
Le Tour est passé à Dreux. Donc voilà. Donc,
pour vous, c'est l'événement plus fort qu'une Coupe du Monde.
Oui, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ce qui est important dans l'esprit Tour de France, c'est, je vous dis, le fait, je vous dis, j'étais à Bruxelles, enfin, j'ai beaucoup voyagé, c'est le bonheur des gens. Quand vous mettez un Coupe du Monde de football, un match de football, il vous faut 25 quarts de CRS. C'est autre chose. C'est un autre état d'esprit. Et c'est ce qu'aiment les Français. Les Français savent que pour être autour de France, c'est dur. Vous savez, nos géants de l'époque, là, ils préfèrent être sur le vélo qu'être à la mine. Il faut toujours ramener ça à son niveau.
Bien sûr. Voilà. Alors, il y a l'histoire du maillot jaune aussi, que certains peut-être ne connaissent pas entièrement.
L'histoire du maillot jaune, là aussi, c'est.
On en a beaucoup parlé cette année.
Oui, c'était l'histoire du maillot jaune, effectivement. C'est je dirais, 100 ans du maillot jaune que nous, je suis plus retenu qu'on parlait plus du maillot jaune, donc après 47, mais pas avant. Et c'est quand même avant que tout soit né. Et là aussi, c'est un peu comme l'affaire Dreyfus. Le maillot jaune, il faut remonter au 28 juin 1914, le départ du 12e Tour de France. Et bien, le même jour, c'est l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand. Donc imaginez, le Tour de France part, l'assassinat. Le Tour de France se termine, le Belge Thys gagne son 2e Tour de France. 3 jours après, Jaurès assassine le Croissant. 3 jours après, Première Guerre mondiale. Donc vous imaginez que les coureurs, on reprend les coureurs parce que c'est de ça qu'on parle, 8 jours après qu'ils ont terminé le Tour de France, ils sont au front. Et j'ai vu des images encore dernièrement sur 14-18. On s'aperçoit que quand les combattants sont partis, ils étaient en fête. Il y avait de la musique, il y avait tout. Parce que tout le monde pensait revenir à Noël. Et on connaît effectivement l'histoire. Donc 28 juin 14, 28 juin 1919, je vous pose la question. Vous savez ce qu'il y a eu 28 juin 1919 c'est où tout le monde le sait, c'est le traité de Versailles. Desgranges, dès le lendemain, refait partir le Tour de France. Il veut que la France revive, il veut que le Tour de France passe en Alsace, à Lorraine, qu'en Corée allemande. C'est ça la détermination. 3 champions sont morts à la guerre, Faber, Petit Breton, Faber et Lapisse, voilà, plus d'autres champions. Et là, Desgranges décide de former une seule équipe. Et là, vous allez comprendre que c'est surprenant, une seule équipe de 67 coureurs, mais tous habillés pareil, gris-noir. Donc au départ, pas de problème. Henri Pélissier, qui a fini 2e du Tour de 1914, et les Pélissiers sont tellement connus, donc on reconnaissait, même il y avait 67, on reconnaissait Pélissier, sauf à l'étape Brest-les-Sables-d'Olonne, 428 km, il abandonne. Et là, ça devient difficile. Et dans l'étape qui suit dans les Pyrénées, Alphonse Bauger, donc ancien coureur, ancien directeur sportif, dit à Desgranges, patron jaune, parce que le jaune, ça se voit. Et effectivement, il avait fait gagner Faber avec les signaleurs en jaune. Desgranges dit oui. Il commande 6 maillots jaunes. Il pense les avoir à Marseille. Malheureusement, on sort de la guerre. Et c'est à Grenoble qu'ils arrivent. Ils arrivent le 18 juillet à Grenoble, à l'étape de repos. Et dès le lendemain, le 19 juillet, Eugène Christophe porte le premier maillot jaune à l'étape Grenoble-Genève, 325 km, où c'est le Français Barthélémy qui gagne l'étape. Voilà l'histoire réelle du maillot jaune.
Donc on en a beaucoup parlé.
En parlant de cela, il faut quand même dire que Eugène Christophe, qui est un grand champion, il a dû gagner en 1913, il a aussi un incident mécanique, et en 1919, encore une fois un incident mécanique, on lui a rendu hommage. à Malakoff. Hein, parce qu'il a vécu, il est né, il a vécu à Malakoff, il est enterré à Malakoff avec un maillot jaune.
Oui, mmh. Avec un maillot jaune.
Avec un maillot jaune. D'accord. Et la personne qui a racheté la maison de Jean Christophe a tout laissé tel que c'était au niveau
bien,
de la cave.
Bien.
Ce qui est important quand on parle de que Jean Christophe a réparé sa roue, etc., parce qu'il était serrurier. Et aujourd'hui, dans la maison à la cave, on retrouve tous les outils de Jean.
Mmh. Ah d'accord.
C'était filmé à la télévision.
Et ça, on peut les visiter.
On peut les visiter. Il suffit d'appeler le fédéral propriétaire, demander. Et là, vous. Donc, j'ai vécu ça, j'ai vécu le reportage. Et c'est vrai, c'était émouvant de dire, il y a 100 ans, ça n'a pas bougé.
Ouais. Donc, tout ce pan d'histoire à travers le Tour de France, il y a aussi des aventures humaines fortes.
Oui,
il y a des tas d'aventures humaines fortes.
Il y a des tas d'aventures. C'est pour ça que pour prendre une, on connaissait des grands champions. C'est pour ça que dans ce livre, ce que j'ai voulu faire, c'est que j'ai marqué tous les coureurs. Important d'associer tous les coureurs. Et j'ai marqué le temps du dernier. Parce que le dernier a plus. C'est plus dur. Parce que le dernier aussi, il a un rôle aussi ingrat qu'on appelle peut-être le porteur d'eau. Donc c'est important d'associer tout le monde. Et vous voyez la logique aussi du Tour de France. Jamais on ne bougera sans que le dernier soit passé ni la voiture balayée.
Oui, c'est vrai.
Ah, d'accord. Voilà. Dans d'autres sports, c'est pas le cas. Dans d'autres sports, le truc se termine, on continue. Non, là, il y a un respect. On a un respect, on est obligé. Voilà. Et moi, ce qui me gêne aujourd'hui, il y avait un respect par rapport au dernier Tour de France, on parlait de la Lanterne Rouge, ils étaient invités au Critérium. Maintenant, malheureusement, il y a de moins en moins de Critérium. Là aussi, c'est un problème. Est-ce que dans 10 ans, il y aura toujours des Critérium? Comme les joueurs, comme les coureurs sont devenus professionnels, avant, pour les coureurs, c'était un plus.
Bien sûr.
Maintenant, ils sont professionnels. Est-ce que dans 10 ans, il y aura encore des... Il y a très peu en France maintenant.
Très peu. Je crois une quinzaine, c'est tout. Il doit rester une quinzaine et encore, c'est compliqué.
Là, on peut s'imaginer dans quelques années qu'il y a des pans d'histoire qui disparaissent parce que c'est autre chose.
Mmh. Ouais. Alors très vite, ASO et les organes officiels de la Fédé de vélo, par rapport à vos actions, ils vous accompagnent, ça pourrait être mieux, ça pourrait...
Ils nous accompagnent à un moment donné.
Vous faites quand même leur promo directement.
Nous, on fait la promo de l'histoire de l'histoire de France. À un moment, il y a un décalage avec la façon qu'ils voient l'optique. Nous, on continue à œuvrer. Nous, on est dans l'histoire. Et ce que je souhaite, nous, par rapport à l'association, c'est effectivement un jour pouvoir fédérer au cours d'un week-end vraiment tous les passionnés à travers la musique, la danse, mais vraiment les passionnés et surtout retrouver un peu, dans la région qu'on est, tous les géants qui existent pour qu'ils nous racontent l'histoire. Parce que l'histoire, c'est pour moi je suis pas coureur. C'est eux qui doivent nous le raconter, pourquoi ils ont galéré. Et ça, est-ce que vous posez la question? On l'a vérifié en 2013. En 2011, on sort le livre. Donc, alors Serge, je reviens. Donc, Serge, entre 3 millions de ces coureurs, j'ai à Serge, tu te rends compte? Et c'est là qu'on dit, dans 2 ans, c'est les 100 ans du Tour. Il faut qu'on sorte le livre là, parce qu'on va mener une action pour faire venir des coureurs qui sont encore vivants. Et on a réussi. En 2013, nous avons fait venir 365 coureurs à la Concorde.
Oui, je me suis
trouvé à la Concorde avec les coureurs.
Non, on en a croisé beaucoup d'ailleurs.
Je me suis trouvé avec les coureurs et l'anecdote que je raconte, c'est qu'à un moment donné, donc il y a plusieurs générations, des coureurs qui s'étaient pourvus depuis 10 ans, 20 ans, et là on me dit, mais et toi petit, quel tour que t'as fait? Ah, je dis, moi les gars, j'ai pas fait de tour, mais si vous êtes là, c'est un peu grâce à moi. Et vous savez ce qui se passait? C'est eux qui me prennent en photo. Donc c'est un peu dingue. Un passionné qui veut prendre des photos des coureurs. Et donc voilà, donc je trouve ça marrant. Voilà.
Mm-hmm. Oui. Vous avez craint pour. L'institution Tour de France dans les années 98, là, au moment où il y a eu tous ces problèmes, le Tour a failli s'arrêter.
Là, on peut dire merci à Jean-Marie Leblanc.
On peut dire merci
à Jean-Marie Leblanc. 88, c'est simple, c'est 98.
Juste après le mondial,
mais tout ça, il y a une logique. Moi, je suis très sportif, il y a une logique. Hein. 98, c'est la Coupe du Monde de football. Okay. Et là, je dis, heureusement qu'on gagne la Coupe du Monde de football. On aurait perdu, peut-être que le peuple français aurait été différent. Il faut toujours ramener ça. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé en 98? Marie-Georges Buffet, qui était ministre des Sports, a souhaité faire des contrôles antidopage au niveau du football.
Porte plainte.
C'était refusé. Mm-hmm. C'était refusé. Mm-hmm. Okay, donc un peu en colère, ministre. Okay. Ce qui fait que les échantillons du Coupe du Monde 98, tout est détruit. Mm-hmm. Donc on ne peut pas remonter. Et par contre, effectivement, un peu en colère, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a eu l'info par rapport effectivement, à ce qui passait en vélo. Et là, ils ont retrouvé Willy Witt, qui était leur. Et comme ça s'est passé. Mais il faut arrêter de taper sur le vélo, qui aujourd'hui, effectivement, il y a eu des problèmes. Mais si on regarde les autres sports, c'est pareil. Vous savez, quand on cherche, on trouve.
Mmh. Voilà. Oui, bien sûr. Mmh. Allez, on va marquer une petite pause musicale, petite page de pub, et puis on se retrouve d'ici quelques minutes pour ce passionnant plaidoyer.
Chef d'entreprise, vous cherchez plus d'espace pour votre activité? Alors, n'hésitez plus.
Dans un environnement dynamique et privilégié dédié à l'entreprise, la communauté d'agglomération Rambouillet Territoire a créé pour vous un vaste parc d'activités à Rambouillet. Terrain disponible à partir de 1 500 m². Plus d'informations sur www.rt78.fr ou en contactant le service développement économique au 01 30 57 20 61.
Artisan, peintre, décorateur, Sébastien Mohar, pour vos travaux de décoration, peinture intérieure, traitement des sols, tapisserie, vitrerie et ravalement peinture. Votre artisan peintre décorateur, Sébastien Mohar, c'est plus de 15 ans d'expérience. Devis gratuit et renseignements au 01 34 85 98 14. Artisan peintre décorateur, Sébastien Mohar, 13 bis rue de la Libération, à Sonchamp.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away. But I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Vivez le sport dans votre région avec RVE.
Allez, cette émission, bah, vous pourrez très naturellement la réécouter en podcast. Claude, vous l'avez dit, vous faites partie de cette association française pour un sport sans violence et pour le fair play. On y est tous les ans, c'est une manifestation qui est remarquable. Il y a tous les sportifs de haut niveau qui côtoient les sportifs amateurs.
Ça fait 30 ans, ouais. 30 ans que je suis membre du Fair Play, mm-hmm. En plus à travers cela je fais différentes choses par rapport au livre et tout, et depuis 20 ans j'ai l'honneur, effectivement, c'est moi qui accueille tous les champions, qui les place, etc. Et le souvenir que j'ai toujours de cela, c'est que même que ce soit un très grand champion ou un anonyme, et tout le monde est.
Oui,
et ouais. Et à ce moment-là, il y a de l'émotion, de l'amitié incroyable. Ça, c'est
et vraiment... puis il y a des champions qui reviennent tous les ans.
C'est, hein. Voyez, là, c'est...
Patrice Martin, Daniel Costantini, Jomazo.
Ils sont là.
Aimé Jacquet qui est revenu pendant très longtemps, moins maintenant.
Mais maintenant, je l'ai contacté pour qu'il pouvait être avec nous. Je vous donne un peu, pas un scoop, je vais vous donner quelques noms quand même. Kevin Meyer qui sera présent là. On aura Thierry Meyer aussi, Laurent Balleur. On aura Aurélien Rougerie, donc le rugby. Et puis on aura le frère de Tabarly, puis il y a d'autres champions, puis une surprise, mais je peux pas le dire pour l'instant parce que j'espère, mais voilà. Donc mais c'est toujours cet esprit, le sport avant tout c'est l'amitié. On gagne, on perd, c'est pas là le problème. Le tout c'est que si l'autre ils sont plus forts, tant mieux. C'est comme ça. Moi ce que j'aime pas c'est ceux qui trichent. Voilà.
Oui, bien sûr.
Donc il y a le dopage, il y a tout ce qu'on veut de la violence qui emmène aussi des choses. Donc le sport c'est ça avant tout.
Mmh. Allez, on revient sur votre association. Alors, vous avez donc décidé de la créer. Pourquoi ? Pour valoriser justement tous ces géants de la route.
C'est le fait de rencontrer beaucoup de monde. Vous savez, faites une expo, on est deux au départ, on finit à 50, tout le monde est heureux au moment, donc les gens veulent nous aider. Donc on fédère effectivement une association. Donc c'est plus facile qu'une association. Là, les actions qu'on a menées avec la mairie de Fontenay-sous-Bois, de Malakoff ou de Grenoble, de passer pour une association, ça va tout seul.
Elles sont réceptives, les villes, d'une façon générale, quand vous les contactez ?
Tout à fait, surtout là, c'est des actions simples. C'était Malakoff pour honorer effectivement Jeanne Christophe. pourquoi Fontenay-sous-Bois, c'était à travers Bob et Etis, c'est clair. Et puis pourquoi Grenoble, c'est là que effectivement qu'est né le maillot jaune. Ça c'est clair. Et nous, j'étais très ému effectivement ce 19 juillet à Grenoble, tout ce qui se passe. Et en plus, ça a été donc Julien Lafilippe qui a gagné avec le panache. On ne pensait pas qu'il allait garder son maillot jaune, au contraire, il le conserve. Donc c'est tout cela qui pour moi le Tour de France. Christophe Prudhomme l'a dit, etc. On est passé à autre chose là avec des coureurs qui attaquent.
Oui.
Bernal, c'est pareil.
C'est plus, ouais.
Mais n'empêche qu'il y a toujours, j'aurais aimé.
C'est les oreillettes.
J'aurais aimé. Voilà. J'aurais aimé. Ça n'a pas pu se faire. C'est comme ça. J'aurais aimé pour 2019, qu'on fasse un clin d'œil avec l'histoire, avec effectivement les centres de maillot jaune et dans l'histoire. C'est de dire, nous, les supporters, on voudrait voir un Tour de France aux oreillettes cette année. Et profiter de ce centenaire. Pour dire effectivement, vous savez, c'était pas compliqué, il y avait 22 directeurs sportifs à décider. Et voilà, pour l'histoire et la mémoire de votre sport aujourd'hui, le peuple voudrait voir un tour sans oreillette.
Eh oui.
On essaye.
Oui.
C'est faux. Pour faire des événements, il faut que des événements.
Mais vous vous rappelez, ils avaient fait une étape où il n'y avait pas eu d'oreillette et les coureurs n'avaient pas roulé ce jour-là.
Oui,
ça avait été une fronde.
Une dizaine
d'années, ça.
Mais tout ça, c'est. Non, mais on parle des esprits de 3 semaines. Trois semaines sans oreillette, et tout le monde est à la même enseigne par rapport à ça. Pour voir, peut-être qu'on dira, ah bah oui, effectivement, on sait. Mais on veut le voir. Voilà, c'est
tout. Bien sûr.
En tant que sportif, vous savez, dans le même esprit avec Déo, moi je suis un ancien arbitre, donc je sais ce que c'est que une décision. Le handball, c'est plus facile parce qu'on peut se rattraper, on s'est trompé, on peut corriger. Mais quand je vois toute la polémique aujourd'hui avec le football, avec le VAR, je suis ami avec Michel Vautreau et puis d'autres grands arbitres à cette époque-là.
Grand monsieur qu'on avait eu l'occasion de rencontrer souvent.
Vous savez, vous parlez de Vautreau, de Quignoux, tout ça, ils sont plus rien. Ils n'existent plus, je veux dire. Et moi, ça me gêne. Parce qu'ils ont porté haut et fort pendant des années, je dirais, par le sport, la fédération, mais ils sont ignorés par la fédération. Ce n'est pas normal.
Oui, c'est vrai.
On pourrait dire que c'est des vieux, non. C'est toujours le sport à arbitrer. Et aujourd'hui, ils n'avaient pas besoin de vidéo parce qu'ils étaient dans l'humain. Les joueurs comprenaient, le public comprenait. Aujourd'hui, c'est plus ça.
Vous croyez que le public comprenait l'humain quand même moins, parce qu'on voit quand même certaines réactions du public.
Oui,
ils admettent pas l'erreur, l'humain.
À aujourd'hui, je me replace, mais c'est toujours à un moment donné un arbitre. C'est quoi? Vous arrivez, vous avez deux équipes, deux capitaines, vous avez deux entraîneurs et vous avez le public. Pourquoi? Dans des matchs, ça se passe toujours. Avec certains, ça se passe bien. Et toujours des matchs, avec d'autres, ça se passe toujours mal.
Eh oui.
Toujours mal. Donc il y a bien un problème. Là aussi, c'est pareil. À un moment donné, comment on sélectionne? Vous savez, c'est facile. Si vous arbitrez tous les jours des matchs PSG-Marseille, c'est difficile par rapport, je dirais, à Lorient contre Rennes, si vous voulez. Parce que.
Oui, et puis il y a l'environnement qui fait monter la mayonnaise.
Et puis c'est plus pareil, je veux dire. Parce qu'aujourd'hui, c'est tous des professionnels, c'est l'argent. Alors, on revient à l'argent. C'est l'argent qui, à un moment donné, dicte les choses. Moi, je suis un passionné. Parce qu'on a le temps.
Mais les sportifs,
lorsqu'on a de l'argent, lorsqu'il y a de l'argent, on n'attend pas.
Mais les sportifs restent des passionnés, quand même, intérieurement. C'est l'entourage, peut-être, qui pollue.
On est bien d'accord. Effectivement, avant on pouvait avoir un champion facilement. Maintenant, il faut passer par un intermédiaire, ou cette presse qui fait. Bon, et même moi qui me scandalise des fois, c'est que le joueur veut aller maîtresser dans une équipe, mais non, c'est l'intermédiaire qui le fait changer. Tout ça pour une histoire de. Et même des fois, il y a des clubs qui embauchent des joueurs pour pas que les autres les. Enfin, je sais pas où on va là. C'est des choses que moi je disais il y a 30 ans quand j'ai connu André Catelin qui était président du Fair Play. C'est vraiment ça, je sais pas où on va. Quand je vois là les chevaliers du monde d'athlétisme, quand je vois toute cette mascarade où on nous demande des choses écologiques, on voit qu'ils y mettent la clim et le toit est ouvert. Et je pense que 2022, comment ça va se passer? Moi, on l'a connu en France, c'est la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est pas les chevaliers du monde d'athlétisme, comment ils vont faire avec le public?
Oui. Non, c'est sûr.
Comment ça va se passer?
On est tous inquiets, en plus, à une époque qui va casser les calendriers, c'est bon.
Ce qui va casser 2 ans de calendrier, donc tout ça, c'est un impact budgétaire de tout, je vous dirais. Mais non, c'est pas grave, c'est décidé, c'est fait. Donc j'ai peur dans 10 ans que plein de choses se passent. Mais bon, voilà. En tout cas, je dis souvent, je suis heureux d'avoir connu le sport que j'ai connu. Moi aussi, aujourd'hui, j'étais donc au porte de l'équipe de France. Donc aujourd'hui, à la limite, je serai dans un club, quel qu'il soit. Je serai professionnel.
C'est du hand, non?
C'est du hand. Je serai professionnel. Je me dis, à 30 ans ou 32 ans, qu'est-ce que je fais quand ma carrière se termine? Parce que moi, j'ai fait un choix. J'étais arbitre de championnat de France. J'ai arrêté d'arbitrer parce que je pouvais pas concilier mon travail et l'arbitrage. Parce que quand vous dites que vous travaillez dans le privé, faut faire des stages. Quand vous êtes même en équipe d'arbitre, et des stages, etc. Donc, vous faites ça pendant vos périodes de vacances. Quand vous êtes dans le privé, vous dites à vos enfants, bah non, je pars pas en vacances parce que... Donc, tout ça, ça m'a gêné. Et donc, j'ai fait un choix de professionnel. Mais je me dis aujourd'hui, tous ceux qui sont professionnels, mais à court terme, qu'est-ce qu'ils font après? On ne se pose jamais la question de ça.
Ouais, sauf les grands champions, mais sinon...
Oui, mais les grands champions,
il y en a combien que ce soit en vélo, au foot ou ailleurs, on ne s'y intéresse pas trop. C'est vrai que c'est souvent des cas intéressants, d'ailleurs.
C'est des cas intéressants.
Il y en a qui changent de vie complètement.
Et alors, qu'est-ce que je peux savoir? Oui, parce qu'il y a des gens qui très professionnels, qui ont eu de l'argent, mais avec des mauvais placements, ils ont perdu. Et là aussi, on peut en trouver. C'est pour ça que... Moi, je suis très content d'avoir connu le sport que j'ai connu. Et là, je peux vous dire, moi, je sais la fracture qui s'est passée. C'est la fracture, c'est en l'an 2000, d'accord? Déjà avec l'affaire Bosman. Et deux, on a gagné la Coupe du Monde. Tout a changé. Après l'an 2000, le sport a changé.
Oui, puis, est-ce que le sport, il est aussi un peu le reflet de notre société? Aujourd'hui, on a une société où l'argent prend de plus en plus d'importance, même peut-être un peu trop. Est-ce que finalement, sport n'a pas suivi?
Le sport, c'est ça. Il n'y a plus d'humains. J'ai l'impression que les gens... pour moi, c'est des bœufs. À un moment donné, on leur dit de faire ça, on font ça. Sans vous dire, on y va tous, quoi. Mais le sport m'a porté dans ma vie, m'a guidé dans ma vie, m'a fait ce que je suis. Donc je veux rendre au sport ce qu'il m'a donné,
mais pour ça qu'on l'aime.
Avec des valeurs que moi je défends. Mais ce qui est important, c'est qu'on n'est pas tout seul. Vous aussi, vous êtes comme moi, vous êtes passionné, etc., pour devenir au fair play, mais il y en a plein d'autres. Simplement, on n'est pas écouté. Je suis content que vous me donniez la parole pour parler de tout cela. On n'est pas audible. Parce qu'on fait pas de l'audimat.
Oui, mais...
Vous voyez, quand on dit quelqu'un est bien, on fait pas d'audimat.
Oui, il faut faire le buzz.
Faire
le scandale, c'est ça.
Voilà.
Mais non, mais c'est pas là.
Et tout, moi aujourd'hui, là, vous parlez un peu de médias. Moi, à un moment donné, sur certains médias, je vois de Réloir, j'ai eu plein de papiers, et là, j'ai plus de papiers. Parce qu'effectivement, ça mérite. Mais c'est tout, mais c'est pas grave. Je continue à me battre, pas pour moi, pour tout le monde. Par contre, j'ai un devoir, vu que je suis en première ligne, et ben je me bats. Et je soutiens toujours les choses.
C'est bien, il faut continuer.
Parce qu'un passionné, on ne peut pas l'arrêter.
Absolument. Il faut continuer à vous battre, et puis vous viendrez en parler régulièrement, Claude, à ce micro. Le Tour de France 2020, vous étiez à la présentation mardi.
Oui, toujours.
Vous le trouvez comment?
L'ambiance toujours aussi bien, avec 4000 personnes, toujours bien. Tour de France me surprend. Je voulais regarder parce que je savais que j'allais venir, mais j'ai pas eu le temps. Je voulais regarder parce que quand on prend la carte de
Sud est très représenté, il y a plus le Nord.
Voilà, on prend la carte sur un A3, on met la carte, on met le Tour de France, on plie le A3, on se retrouve avec effectivement que Paris et puis tout en dessous. Je sais pas si ça existait, comme ça.
Autant accentué, non. Autant accentué, non. Non.
Donc là, bon, effectivement, le Tour de France, là, 21 étapes, 3450 km. Il faut savoir, là, dans l'histoire que je me bats, 1919, on parlait tout à l'heure, c'est 15 étapes, 5600 km. Donc effectivement, avec ça, on peut faire ça différemment.
Oui.
Mais c'est comme ça. De toute façon, quoi qu'il arrive dans le Tour de France ou comme n'importe quel championnat, c'est toujours les sportifs qui font.
Absolument. Bon, absolument.
Moi, je prends le cas, on revient, mais c'est un peu ça dans le jeu, ce qu'on veut. Moi, quand j'arbitrais, j'étais là pour que le jeu se déroule. Donc, si les équipes jouent, on arrivait à un score de handball, 25, 26, etc. Si vous voulez pas jouer, je sifflais. Et là, on avait un score 18-18. Mais c'est pas moi qui imposais. D'accord? Donc, le tracé du Tour de France, il est là, c'est au coureur de faire.
Bien sûr.
Et je pense que là, avec nos coureurs qu'on a aujourd'hui, dans cette nouvel état d'esprit, avec la montagne qu'il a, qui arrive très vite.
Surtout en première semaine.
Une
deuxième semaine, un peu plus de répit, une troisième où ça remonte.
Mais après, il faut tenir.
Ouais, c'est
après,
ça. Tenir. Troisième semaine, c'est souvent dur.
Il y a toujours besoin de tenir, il faut tenir, parce qu'il faut tenir. Le Tour de France, c'est 3 semaines.
Ouais.
3 semaines, c'est pas. Donc, tout est possible. J'espère avoir un beau Tour de France. Puis voilà.
Cette année, on s'est régalé. Ça a été le plus beau depuis 1989.
C'était
le Tour 2019.
Ouais, c'est surtout.
Parce que les gens, ils ont reparlé de vélo durant l'été.
C'est surtout. Ouais. C'est simple. Il ne faut pas non plus. Si on enlève Alain Philippe et Pinot, Bernal à la fin, il n'y a rien.
Bien sûr.
On arrive toujours, comme d'habitude, dans les 3 derniers kilomètres. Donc, Il y a une génération là de coureurs, je crois en Bernal, si vous voulez. Uh-huh. Je crois que c'est une génération de coureurs qui amène les choses.
Uh-huh. Et puis une saison de vélo, j'ai dit, qui se termine aujourd'hui avec le chrono des Herbiers. Uh-huh. On a eu une belle saison, hein, parce qu'Alaphilippe, il a gagné Milan-San Remo, et puis la Flèche Wallonne. On a eu aussi une année historique. On a un Colombien qui gagne le Tour pour la première fois, uh-huh, un Paraguayen qui gagne le Tour d'Italie, uh-huh, un Danois qui est champion du monde.
Uh-huh. C'est ce qui est important, c'est regarder Jacques Marchand. Jacques Aujourd'hui.
Grande plume aussi.
Qui est une grande plume, qui est un ami.
Qui est encore en vie, heureusement.
Qui est là. Déjà l'an dernier, il me disait que l'autre, je ne sais pas si je serai là en 2019, il est encore là. Donc Jacques m'a dit quelque chose, et c'est vrai, il faut toujours en tenir compte de cela, sur des fondamentaux de la vie. Il me dit, Claude, j'étais en colère avec Paris Tour, parce que Paris Tour, c'est une étape de sprinter. Mmh. Et là, en rajoutant on dénature l'esprit de Paris Tour. Mmh. Donc c'est ça qu'il faut faire attention. On peut faire des choses comme ça pour faire un peu. Mais il faut garder toujours des fondamentaux. Ouais. Même les fondamentaux de la vie qui sont bonjour, merci, au revoir. Mmh. Donc on peut faire ce qu'on veut dans la vie, mais revenir à des fondamentaux. De toute façon, pour un enfant, c'est neuf mois, et ainsi de suite. On a l'impression qu'à 9 mois déjà, le gamin, il sait marcher, etc. Non, et à un moment donné, il faut revenir.
C'était une course des sprinters, Paris Tour. Hein. C'était, voilà.
C'est une course de sprinters. Voilà. Et là, on rajoute un peu du Paris-Roubaix, donc c'est plus des sprinters, parce que, effectivement, Arnaud Demare était vraiment au top. Mmh. Je pense qu'effectivement, s'il n'y a pas ça, peut-être que.
Ouais, ouais. Paris-Tours qui part donc de votre département, d'Eure-et-Loire, maintenant depuis quelques années.
Depuis
c'est un classique comme pour les Yvelines sur le Tour de France de Paris-Nice.
Effectivement, il y a eu d'abord c'était le département d'Eure-et-Loire, et après, donc effectivement, c'est la ville de Chartres, qui a pris un contrat de 4 ans pour le Tour de France. Même effectivement, les Yvelines, ça sera Mantes-la-Jolie. Où vous serez.
Voilà. Absolument. Alors, donc, votre association, elle peut faire des conférences un peu partout.
Notre association, effectivement, on a travaillé. La semaine prochaine, je suis une grande assemblée générale en Normandie. Mmh. Effectivement, il y a plein de choses qui se passent aujourd'hui dans le fait qu'effectivement, on a tout à l'heure parlé un peu en micro. On sent que les passionnés ont du mal à se retrouver dans cet nouvel environnement. Et donc, c'est un peu dommage. Et donc, je souhaiterais un peu, avec d'autres amis, recréer un événement festif, ouais, mélangeant effectivement tout, même la musique de cette époque-là, les gens qui font du théâtre, les anciens quoi, par région, voilà, pour pouvoir effectivement se retrouver les passionnés.
Ouais. Les gens sont très réceptifs.
Ah bah oui, parce que je veux dire, je vois au niveau de l'expo, c'est ça qui m'a plus surprise. J'arrive dans une ville et puis les gens ne vous connaissent pas, vous mettez l'expo, parce que j'ai fait quelque chose qui est simple, qui est maniable. On ne demande rien à personne. Là aussi, c'est ce que je souhaitais, c'est avoir une liberté. Si demain on me prend la tête, je remballe tout, au revoir, merci. Ouais.
Vous êtes combien dans votre association?
On grossit, on fait attention parce que vous savez, j'ai connu trop de gens qui grossissent pour n'importe quoi. Je regarde les fondamentaux. Donc là, on a déjà passé un cap. Donc effectivement, les petits enfants de Fabien Petit Breton, Jeanne Christophe sont avec nous. Mais on grossit doucement pour fédérer, etc. Après, on sera fédéré par d'autres associations importantes pour pouvoir. On fait attention à ce qu'on fait. Parce que vous savez, après, on ne regarde plus rien. Tout le monde parle de nous, on parle en notre nom, mais c'est pas notre nom. Donc on fait. Aujourd'hui, il faut être très attention. Mmh. On n'est pas pressé.
Oui, monsieur.
C'est un projet qu'on souhaite faire. On va dire alors, là déjà on prend des contacts à haut niveau, je dirais régional. Pour nous c'est une étape.
Ouais, bah oui.
Donc, vous savez.
C'est puis, combien un an, deux ans avant des contacts comme ça?
Non, parce que l'avantage, un Tour de France ça fidélise tout de suite. On sent le passionné, sans le passionné chez moi, je le sens aussi chez vous comme chez d'autres. Uh-huh. Ça va très vite après. Tout qu'on ne demande rien, on ne demande rien en soi, c'est qu'à un moment donné qu'on puisse se réunir, on trouve le meilleur environnement, on va trouver le meilleur environnement. De là, on va faire un appel, c'est-à-dire, là on sert de la presse, même de la radio, en disant voilà, tous ceux qui ont une histoire du Tour de France, on se rejoint à une réunion, puis on voit ce qu'on fait. C'est tout à fait la simplicité.
Eh ben justement, vous aimeriez en faire là dans notre région, dans les Yvelines?
Mais bien sûr. Il n'y a pas de problème.
Sur l'Eure-et-Loire, l'Essonne, tout ça.
On prend. Vous savez, quand on fait Tour de France, on fait des fois on fait souvent des kilomètres. Mmh. Mais l'idée après. Toujours l'aspect sécuritaire, comme m'occupant du fair play, tout ça c'est important, l'aspect sécuritaire. Mais je pense, un, que les villes ou les régions sont prêtes à nous aider, etc. Parce qu'on retrouvera l'aspect effectif, mais pas que Tour de France. C'est un aspect effectif en général où les gens se connaissent. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que les gens ne se connaissent pas.
Eh oui, bah oui. Dans un monde pourtant où on est censé communiquer de plus en plus.
Non. Vous communiquez, vous pensez communiquer en Facebook avec plein de monde, et puis en fin de compte, vous pensez que c'est rien. Ouais. C'est pas ça. C'est un peu du physique. Moi, je peux vous dire que quand je fais l'expo, je veux dire, quand on se quitte, les gens, il y a quelque chose qui s'est passé, ce qu'on me rappelle, etc. Parce que, voilà, c'est ça l'amitié.
Bien sûr, bien sûr.
Donc, ce que moi, je ressens, ça se passe aussi avec d'autres. Mmh. Donc, je suis là un peu un passeur, un porteur de choses.
Et alors, ce livre que vous avez écrit avec Serge Laget, donc, compte et raconte tous les Tours de France, il y a une réactualisation tous les ans. C'est une Bible, hein?
C'est une Bible.
Jusqu'au dossard. Hein.
Jusqu'au
numéro de dossard.
Oui, parce que aujourd'hui, on a un problème aussi. La lecture, les gens, ils lisent plus, ils lisent moins, etc. Et la lecture fait tout. Il faut du théâtre, n'importe quoi, il faut à un moment donné lire. Et dans ce livre, où vraiment le premier défi, on parle littéraire d'ISO, comment on a rencontré ISO, donc Serge connaissait moi un peu moins, et, ouais. j'ai lancé un défi à Jean-François Pécheur en lui disant, Jean-François, je suis capable de faire un livre. Et dans ce livre, marqué le dossard du coureur, le nom du coureur, et aussi dans un petit encadré, parce que lorsqu'on voit, on rencontre des champions, le champion, lorsque c'est dans un cadre, etc., il se sent plus respecté parce qu'il signe tellement de choses sur un morceau de papier, sur un morceau de papier, il va disparaître, que là, dans un livre, il n'est pas rejeté. Donc Jean-François Pécheux rigole, me dit, Claude, on a essayé, on n'est jamais arrivé. Bah, je dis, écoute, jamais arrivé, bah, moi, je suis prêt à tenter le pari, ok. Alors pourquoi j'ai lancé ce pari-là? Là aussi, j'ai une deuxième histoire, mais c'est important parce que ça rejoint un peu ce qu'on parlait tout au long de la journée. Je suis à 3 km d'une grande usine qui s'appelle Firmin Didot, imprimeur à travers Louis XIV, vous voyez, donc ça m'en donne des histoires. Ma vie a changé en 2006, lorsqu'on a honoré à travers le menu célestré le village de l'usine, j'ai appris que son nom et son effigie était sur le monument aux morts, sur la mairie de Paris. Là, ça, j'étais scotché de savoir qu'il a son effigie. Alors, j'y suis allé, et j'ai trouvé facilement, parce qu'il y en a 78, et bah, c'est ça, on fait comme si on entrait dans la mairie de Paris, on rentre pas, on sort, on est rue de Rivoli, on lève la tête, droite, on a l'effigie de Firmin Didot.
D'accord.
Ça a changé ma vie. Ouais. Et la deuxième histoire, Firmin Didot, j'étais présent par mon élève de l'école Firmin Didot, donc, tu vois, et j'avais pété à 3 km de l'île. Et dernièrement, avec tout cela, s'est passé un truc incroyable. J'ai recherché dans les arbres généalogiques. Et depuis 1850 à aujourd'hui, en 2019, il y a toujours quelqu'un de la famille de mon épouse qui travaille là-bas. Et moi, je suis peut-être le premier auteur proche de l'usine qui fait le livre là-bas. Voilà. Donc,
c'est quand même.
Vous voyez qu'il y a des symboliques par rapport à l'histoire du tour. Il y a un symbolique aussi par rapport au livre. Moi, j'associe les deux. Voilà. Et donc, l'idée du livre. Qui permet effectivement aux passionnés de le prendre, mais ça leur permet aussi de retravailler l'histoire par rapport à leur père et leur grand-père.
Bien sûr, bien sûr. Ouais.
Et ça, c'est bluffant. Donc aujourd'hui, on a un manque de communication, c'est vrai. Je travaille dessus aussi pour effectivement demain que ce livre, qui pour l'instant est méconnu, soit connu.
Voilà. Ah oui. Et puis, tous les ans, il y a une réactualisation.
Oui, tous les ans, parce que c'était quand même un gros travail, il faut savoir, de répertorier tout ça. Donc, mon ami.
Comment vous avez fait? C'est les archives, c'est tout?
C'est tout plein d'archives. Ouais. Parce que dans ma page de gauche qui m'appartient, parce que le livre, c'est pour moi, je n'ai rien écrit dans le livre. Moi, je suis pas un écrivain, je suis quand même passionné, mais Serge, avec Serge, on est en quatre mains, c'est pour ça que c'est mis. Donc, j'ai dit, Serge, moi, je reprends tout ce qui est statistique. Tous les vainqueurs d'étape, qui étaient maillot jaune, hein, tous les coureurs arrivés, plus le temps du dernier. Ça, c'est mon boulot. Ça, donc c'est une page. Donc Serge, en 2009, il vient me rejoindre. Il dit, Serge, maintenant, sur chaque année, toi, tu fais le résumé du tour. Et Serge s'est payé, effectivement, ses 100 Tours de France.
En combien de temps? C'est beaucoup.
Il a mis un an.
Ah oui, oui.
Il a mis un an, parce que j'ai pas mis la pression, un an. J'ai dit, Serge, tu fais ça. L'année d'après, comme là, cette année, on va travailler uniquement sur le 2020.
Oui, donc là, c'est plus... Voilà.
D'accord. C'est ça la philosophie, parce que c'est un gros boulot.
Oui, oui.
Et avec ça, on va encore rajouter dedans 2-3 personnes qui vont témoigner. Vous verrez dans le livre, on fait témoigner Jean-Pierre de Guillaume qui raconte comment lui, coureur, pour faire le Tour de France, un peu tous les sacrifices qu'il prend. Hein. Jacques Augende qui témoigne, Madame Amour aussi témoigne un peu par rapport à tout ça. On fait témoigner des gens pour comprendre que le Tour de France, il y a des coureurs, mais il y a aussi plein de choses autour.
Bien sûr. Écoutez, il y a d'autres actions prévues pour vous dans les prochaines semaines, d'autres.
Pour prendre une semaine, je vous dis
d'autres folies peut-être.
La semaine prochaine, donc je vous dis, on voit cette assemblée, je dirais, régionale de Normandie. Alors Normandie, c'est qui, c'est Antille. L'idée par rapport à cela. Et donc on continue. On sait qu'on va aller en Belgique. La Belgique veut encore honorer François Faber. Donc là aussi, on est prévu effectivement être présent en Belgique. On avait
Raymond Puydeur aussi peut-être, Bernard Hinault.
Oui, il y a Bernard Hinault. Mais on avait un projet qu'on voulait faire pour 2019, mais qu'on va faire en 20 ou 21. On parlait que le Tour de France, le maillot jaune est né en 1919. Nous, on parle de 1903, donc l'idée de 1903 à 1919, il y a 12 Tours de France, 13 Tours de France, et nous, on a refait grâce au livre l'histoire, on a retrouvé que 24 coureurs auraient dû porter un maillot jaune. Hein, donc il y a deux Italiens, 7 Belges, 13 Français, un Luxembourgeois et un Suisse. On travaille pour cela, pour qu'un jour, on puisse effectivement honorer nos 24 champions.
Ah ouais, c'est fabuleux.
Par les petits-enfants. Donc on va y arriver, on n'est pas pressé, on va y arriver. Et c'est ça notre travail. Et là, c'est simple, les Italiens m'ont appelé la semaine dernière. Ils voulaient qu'on puisse honorer déjà les deux Italiens à Venise. J'ai refusé. J'ai dit, nous, on va honorer les 24 champions en même temps. Uh-huh. Quand on était là à Bruxelles, quelqu'un nous a dit aussi, on pourrait faire ça à Bruxelles au niveau de. J'ai dit, non, pour l'instant, on n'est pas prêt. Donc j'ai décidé que ça se fasse en France. Donc voilà, et Rambouillet, pourquoi pas.
Eh ben oui, pourquoi pas. Allez, la deux.
Nouveauté à l'Abbatienne de Menuiserie. Améliorez les performances énergétiques de votre habitation et faites des économies d'énergie en optant pour l'isolation par l'extérieur. Demandez votre devis gratuit au 01 34 85 87 32. 01 34 85 87 32. Abbatienne de Menuiserie, votre spécialiste en menuiserie sur mesure, reconnu au Grenelle de l'Environnement. Showroom, 27 rue de Chartres, Péray-en-Yvelines. Voir conditions magasin.
Vous voulez devenir propriétaire dans un cadre rural avec une qualité de vie exceptionnelle, avec des équipements adaptés, une école, niveau maternel et primaire, des équipements sportifs, une médiathèque, une salle polyvalente et des associations dynamiques? Pont-Évrard, à 3 km de Saint-Arnaud en Yvelines, est un village dynamique, résidentiel, adapté pour accueillir votre famille. Il est desservi par des lignes de bus régulières et situé à proximité d'une gare routière vers RER et TGV et de l'autoroute A10 à 11. Alors découvrez le lotissement Lorée du Bois en lisière de forêt à Pont-Évrard. Et il est éligible au prêt à taux zéro. Contactez la mairie, 5 place de la mairie, au 01 30 41 22 13. 01 30 41 22 13. Changez de vie et devenez Ivry Pontin.
J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets. À tes pieds ils se balancent. Quand même fou l'effet que ça fait de te voir rouler ainsi des yeux et des hanches. Si tu fais comme le café, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter, ce soir la nuit sera blanche.
Couleur café, que j'aime ta couleur café.
Sans philosopher, c'est comme le café, très vite passé. Mais que veux-tu que j'y fasse? On en a marre de café, et c'est terminé. Pour tout oublier, on attend que ça se tasse.
Couleur café, que j'aime ta couleur café. Que j'aime ta couleur café.
Vivez le sport dans votre région avec RVE.
Allez, bah cette émission, elle arrive presque à sa fin, cette passionnante rencontre avec Claude Meillant, donc passionné du Tour de France et du sport en général. Claude, est-ce qu'il y a un sportif dans votre vie d'amoureux du vélo ou même du sport qui vous a peut-être un sportif ou une sportive qui vous a peut-être plus interpellé que d'autres, à travers leur aventure humaine, à travers leur vie, à travers leur trajectoire.
Bah, je vais faire plus simple. J'ai parlé de moi, mais c'est ce qui m'est arrivé, c'est assez incroyable, il y a 30 ans. Donc je créais pas loin d'ici à Chartres un événement qui s'est appelé Megasport, qui était un rassemblement de 57 sports avec une philosophie toute simple, l'esprit du sport, du fair play. Et tous les sports avaient la même surface et le même stand. Le football, 16 000 licenciés, la lutte, 80 licenciés. Ils avaient tous un stand de 12 mètres carrés. Donc autour de cela, animation, etc. Donc tout s'est bien passé. Mais je remonte un peu avant, c'est ça la démarche. Comme tout événement, vous faites une conférence de presse. Donc là, c'était en septembre, je fais une conférence au mois de mars. Donc j'associe effectivement le sport aussi l'arbitrage, avec le deuxième forum national sur l'arbitrage. Et à cette époque-là, en 89, qui était l'arbitre le plus important dans le monde, c'était Michel Vautreau. Et donc je me dis à un moment donné, une semaine avant, je me dis, toi c'est bien ta conférence, mais il te faut au moins le premier arbitre... qu'on soit arbitre de hand, de foot, de basket, on représente le mot arbitre. Et je dis, il faut absolument que Michel Vautreau soit là. Et je me souviens, j'appelle un mercredi, j'appelle chez lui, je tombe sur sa mère, qui me dit, mais non, Michel est parti arbitrer à Madrid. Pourtant, je lisais le journal L'Équipe, mais j'ai pas fait attention. Donc, je le rappelle le lendemain. Et j'explique à Michel Vautreau que je faisais une conférence de presse, effectivement, sur le sport, sur l'arbitrage. Il dit, ce serait bien que vous soyez là à ma conférence. Et il me dit, non, c'est pas possible, je suis recteur à Besançon, je suis pris, mais pas de problème, je peux pas. Bon, ok, bon. Mais comme je suis pas performant au niveau téléphone, je sais qu'il va arbitrer à Laval. Donc, je prends la voie. Oui, c'est là que je vous disais à l'heure, il faut se déplacer, je vais à Laval. Et je vois Michel Vautreau à Laval. Deux anecdotes. La première, je suis dans les tribunes. Et puis, à un moment donné, Michel Vautreau siffle. Et puis là, le public dit pas, l'arbitre, ah, Michel, t'as pas sifflé. Donc, déjà, Michel Vautreau a porté déjà par rapport au public, déjà une certaine sérénité et un respect. Et donc, je vois Michel après. Et Michel me dit, non, Claude, tu peux pas vraiment, je te l'avais dit, ok, mais c'est pas grave. Il me dit, écoute, t'appelles Joël Quignoux. Joël Quignoux, qui était pas n'a pas, je connais ceci de nom. Mais tu l'as toujours pas à l'avoir là.
Grand arbitre.
Il est parti arbitrer à Cour de Guyane, Nantes. Donc, tu peux pas, tu le joindras lundi. Donc, lundi pour jouer d'ici lui, je coque. Donc, le lundi soir, j'appelle Joël Quignoux. Joël, bonjour. Je lui dis pourquoi Michel Vautreau. Il regarde son agenda. Non, je peux pas. Dit, je vous donne le téléphone de Robert Durst et de Gérard Biguet. Robert Durst aussi, bah, pour moi, c'est aussi un arbitre aussi.
Les années 70.
Immense, etc. Et j'appelle Robert Durst le mardi. Et Robert, il n'y a pas de problème. Le lendemain, je vais arbitrer le mercredi. Je serai à Lyon, donc je prends le train et je suis chez vous, venez me chercher, etc. Je suis content. Robert Durst, ouais, bon. Il me rappelle une heure et demie après, il me dit, bah non, c'est pas possible parce que je suis élu dans le nouveau conseil municipal avec les trains, etc. Je peux pas, etc. Bah, écoutez, c'est pas grave, Robert, merci. Donc, un seul nom, Gérard Biguet, que je connais pas. J'appelle avant midi, personne. Je rappelle à 14h. Et là, on me dit, monsieur Biguet n'est pas là. Mais madame Biguet de passage. Bah, passez-moi madame Biguet. Bonjour madame, je lui explique Vautreau, Wurtz, Quignoux. Et puis, elle me dit, Gérard n'est pas là. Il rentre ce soir des États-Unis, il va arbitrer demain à Beauvais. Écoutez madame, c'est simple, si Gérard ne vient pas, moi je ferai rien pour l'arbitrage. J'ai plus le choix. Elle me dit, ne quittez pas. Et revient, j'attends 5-6 minutes. Écoutez, vous appelez ce soir et Gérard sera avec vous. Donc effectivement, le soir, j'appelle Gérard Biguet, pas de problème, vous faites comment? Écoutez, c'est ça, je viendrai vous chercher à Beauvais, il dormira Dreux, vous irez à Chartres, et après on vous ramènera à Paris. Voilà. Okay. Donc ce qui est important aussi, oui, c'est son épouse qui a fait cette démarche-là. D'accord, hein, et Gérard donc, est venu à la conférence de presse, qui était magique aussi, au mois de septembre, il était présent à l'inauguration, avec Stéphane Caron, Stéphane Angelo Parisi et Dany Dieudonné. Alors, Parisi, judoka,
Caron, le nageur. Hein,
et Dieudonné, vous la connaissez pas, Dany Dieudonné, c'était la record woman du monde de dragster.
D'accord.
J'associais toujours un peu aussi des femmes au sport.
Oui, bien sûr, faut pas
et lui, Gérard, était là en grand témoin. D'accord. Le samedi soir, il était arbitré PSG Monaco. Et le dimanche, il était à la conférence de presse.
Voilà.
Donc voilà, vous voyez que mon destin à moi, par ce relais, le fait que je sois arbitre, le monde arbitral s'est mis en marche. Donc c'est assez l'arbitre un peu autour de choses. C'est ça, l'amitié.
Bien sûr.
Et ça, je peux vous dire que, ouais, pour moi, ça restera toujours. Si j'aurais pas eu, effectivement, Gérard Biguet, peut-être que le fait qu'on a pu faire ce forum national sur l'arbitrage m'a permis aussi d'aller au bout du bout. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas désespérer. Il faut avoir de la chance. La chance, je l'ai eu. Et c'est Marie-Christine, que j'ai encore remerciée il y a encore 15 jours, j'ai eu au téléphone. J'ai dit, sans toi, Marie-Christine, toi, j'aurais pas connu tout cela.
Eh ben merci en tout cas, Claude. C'est une belle fin. À très bientôt. On se retrouve le 28 novembre.
Ah, pour le 28 novembre, bien sûr. Hein,
très bien. On va remercier Guillaume, notre technicien de ce dimanche, qui a été très brillant, comme il l'avait été la semaine dernière. Et puis, la gorge, elle ira un peu mieux. Donc, la semaine prochaine, restez-nous fidèles. Et puis, allez suivre la deuxième mi-temps du rugby maintenant.
Ah ouais, hein,
France-Galles. Hein. Et allez les Bleus. Allez, salut.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu. Il est 11h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous. Un troisième jour de perturbation dans les gares aujourd'hui en France. 9 TGV sur 10 en circulation sur les axes Atlantique et Sud-Est. 2/3 des TGV Ouigo bloqués à quai. Et pour ceux qui doivent prendre le RER, les lignes B et D en région parisienne, il est conseillé de reporter votre voyage. Le gouvernement, lui, est entré dans le bras de fer hier. Il dénonce une grève sauvage. Les syndicats de la SNCF parlent de droits de retrait, et ce après un accident qui a fait une dizaine de blessés mercredi. Boris Johnson contraint hier soir de demander un nouveau délai pour le Brexit. C'est ce qu'il voulait éviter après avoir négocié un accord de sortie dans la semaine avec Bruxelles. Les députés devaient le valider hier, mais ils ont décidé plutôt d'adopter un amendement qui oblige